C'est le lieu qui nous donne l'opportunité d'entrer dans le temple sacré. Le temple sacré qui se trouve dans le cœur. Le temple sacré qui se trouve dans l'intériorité du cœur. C'est-à-dire dans l'intériorité du soleil. Parce que le soleil est maître du lion, et le lion, c'est le chakra du cœur. Le cercle sacré se trouve à l'intérieur du soleil, à l'intérieur du cœur, dans les profondeurs. Là se trouve le temple sacré. Le temple sacré du cœur. C'est le fait d'être à l'intérieur de ce temple sacré que le cercle sacré prend sa réalité. Donc le cercle sacré nous fait rentrer dans le cœur du soleil ou dans le soleil spirituel central. Donc nous fait toucher, goûter, expérimenter Uranus et Neptune qui sont au cœur et au centre du Soleil. Pour trouver Uranus-Neptune, il faut d'abord aller dans le Soleil. Ça, on en a pas mal parlé. Sortir de la lune qui est dans la tête, être dans sa tête, c'est être dans sa lune. Être dans le soleil, c'est descendre de la tête jusque dans le cœur. Et pas être juste à la surface du cœur, sinon on se retrouve dans les émotions du cœur. Mais aller au centre du cœur. Là se trouve le temple sacré du cœur. Un lieu secret et sacré dans lequel règne un silence absolu. C'est dans ce lieu qu'on se rend dans le cercle sacré. Donc, dans le cœur du soleil et en le soleil spirituel central. Il faut avoir conscience dans le cercle sacré. Aujourd'hui, c'est le jour de Jupiter. Jupiter, maître du Sagittaire. Qui est Sagittaire? Ah, pas de Sagittaire. qui est ascendant Sagittaire?
Ah.
Tout de même. Tu sauves la mise. Ascendant Sagittaire. Jupiter, maître du Sagittaire. Sagittaire, un signe incroyable. Certains maîtres disent qu'il n'est possible de transmettre pour le moment à l'humanité pas plus de 1% de la réalité de ce qu'est le Sagittaire, tellement que c'est un signe grandiose et qui dépasse l'entendement de tous les plus grands êtres de la planète. Rendez-vous compte de l'ampleur du Sagittaire. D'ailleurs, il y a un livre extraordinaire dont je ne vous ai pas parlé, encore, qui s'appelle « Astrologie spirituelle » d'un grand maître qui s'appelle Ekirala Krishnamacharya et qui est un livre sublime et qui raconte chacun des signes vus par l'astrologie védique et avant-védique et qui décrit le Sagittaire d'une façon incommensurable, expliquant que pour comprendre le Sagittaire, il faut connaître la plupart des écritures indiennes. Les Upanishads, les Védas, la Bhagavad Gita, toutes les grandes écritures indiennes. Et dans toutes les épopées de ces écritures, on comprend un petit peu la réalité grandiose du Sagittaire. C'est des grandes épopées initiatiques, les textes sacrés indiens. Pour comprendre l'astrologie, pour comprendre l'ampleur de l'astrologie, il faut connaître toutes les écritures du monde. Il y en a qui pensent qu'on peut apprendre l'astrologie en faisant 2, 3, 4 ans d'astrologie et on devient astrologue. C'est une pure folie. Pour comprendre l'astrologie, il faut comprendre toutes les écritures du monde. On n'est pas obligé de les avoir lues toutes, il suffit d'en avoir lu une qui permet d'avoir l'accès à la véritable connaissance. Mais dans chaque écriture sacrée, il y a les clés de la connaissance. Pour celui qui est prêt à entendre, qui a les oreilles pour entendre. Jupiter, maître du Sagittaire, le Sagittaire, mi-homme, mi-cheval, ou alors c'est ce qu'on appelle le centaure. Celui qui tient son arc et sa flèche comme ça, et qui va lancer la flèche, parce qu'il connaît son but, il lance la flèche et il atteint le but. Parce que le but et clair en lui-même. C'est comme l'art du tir à l'arc. Dans l'art du tir à l'arc, c'est pas de viser la cible qui compte, c'est d'avoir la cible en soi. Alors, tu peux fermer les yeux et la cible, tu l'as. Parce qu'elle est au centre de soi-même. Donc, le centaure, le sagittaire, c'est ça. C'est celui qui tire la flèche, qui tend sa flèche, qui tend sa volonté divine vers son but et qui va l'atteindre. Parce qu'il a déjà atteint à l'intérieur de lui. Donc Jupiter, il est celui qui va nous donner le but, petit à petit. En faisant grandir notre Jupiter, on connaît de plus en plus le but. Quand il est connu à l'intérieur, il se réalise dans l'existence. Il n'y a pas à s'occuper de l'existence extérieure. Tout se réalise à l'intérieur. Voilà le premier grand secret du Sagittaire. Faut connaître son but. Tendre sa flèche de la volonté divine, c'est la volonté divine, et on lance la flèche. Quand on a atteint le but, l'archer, il reprend la flèche. Très bien, il dit, il remet sa flèche, il en prend une autre, et il va vers un autre but. C'est le Sagittaire. Il sait où il va. Avant de partir, il sait déjà où il va aller. Donc Jupiter, c'est ce feu de la volonté divine. Le feu le plus élevé des trois feux. Feu de Mars, feu du Bélier, feu du Soleil, feu du Lion, feu du Sagittaire. Jupiter. Et c'est le feu le plus puissant. Et le Sagittaire. Donc, Jupiter est la planète qui va nous faire monter la Kundalini, qui démarre avec Mars dans le Scorpion. Mais faut-il déjà l'orienter vers le haut? Ce Mars dans le Scorpion, faire monter l'énergie et le Sagittaire, il récupère l'énergie de Mars, parce que Mars, il a lancé le mouvement, et Jupiter et le Sagittaire continuent. C'est la suite de l'élévation de l'énergie vitale vers le troisième œil. Et le troisième œil, quand il s'est ouvert, nous montre le chemin. La mission véritable. qui va après se vivre dans la maison 10. Mais avant de vivre sa mission, faut-il l'avoir vue en soi ? Et pour l'avoir, il faut utiliser cette énergie du Sagittaire et de Jupiter. Faire monter ce feu de la Kundalini à travers cette énergie incroyable de volonté d'élévation qu'est Jupiter. Jupiter, c'est lui qui nous fait passer du monde humain au monde divin. C'est lui qui nous fait voler. Sans Jupiter, on rampe, on galère, on souffre sur la terre. Et Jupiter, lui, il nous dit, mais pourquoi rester là par terre à ramer ? Élève-toi. C'est la planète de l'élévation. Jupiter. Le feu de la joie et de l'enthousiasme qui fait monter dans le ciel. C'est la seule qui fait ça. De toutes les planètes. Elle nous élève dans le ciel. Quand notre Jupiter est grand, on ne rame plus, on ne galère plus pour vivre. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas exister. Jupiter nous fait sortir de l'attraction terrestre. C'est lui qui fait cette sortie. C'est lui qui donne la puissance de l'élévation. Et c'est pour ça que c'est lui qui élève la Kundalini à l'intérieur. C'est une vision intérieure et l'élévation vers le ciel, c'est une vision extérieure. Mais les deux sont réels. Quand on voit, on vole. Si on ne sait pas où on va, on rame, on rampe, on galère. On souffre avec ceux qui souffrent. Parce qu'on est comme eux. On est en bas. Donc c'est Jupiter qui nous fait monter. Qui nous donne cette envie et ce pouvoir de s'élever. Et on s'élève par la connaissance de soi. La seule élévation, c'est la connaissance de soi. On peut dire qu'on est un être qui vole, comme un aigle, quand la connaissance de soi est accompli. Connaissance de soi, c'est la connaissance de tous ces mystères de notre être intérieur. Parce que beaucoup confondent connaissance de soi avec connaître la personnalité. C'est-à-dire connaître tous nos petits défauts, tatati tatata. C'est pas ça la connaissance de soi du tout. Ne nous trompons pas. La connaissance de soi s'oriente vers le soi, pas vers le moi. Le moi est pure illusion. Donc vous pouvez le laisser tranquille où il est. Il faut monter vers la connaissance de soi. Et c'est ce Jupiter qui nous donne l'élan, la puissance d'élévation, l'envie de s'élever. celle que moi j'ai découvert avec Krishnamurti. À 19 ans. Une envie de m'envoler phénoménale. Jupiter s'est réveillé. Certes, dans mon thème, j'ai Soleil, Jupiter à quelques centièmes de degré. Sûr, j'ai un petit peu privilégié. Mais c'est comme ça. Et du coup, ce Jupiter se réveillant, on se met à voler. Et c'est tellement bon, que tout le reste qui se passe sur la planète, on s'en fout complètement. C'est fini. Tout le monde vit 3 millions de choses sur Terre. Non. Quand on a goûté à Jupiter, on a compris qu'on peut s'élever. Comme une fusée. Et commencer le voyage de la Terre au Soleil. Ne croyez pas qu'on arrive au Soleil comme ça. Dans le cercle sacré, on est dans le Soleil, on est dans Uranus. Parce que c'est mon offrande. Mais en dehors, il faut faire son voyage chacun pour soi. Ce voyage extraordinaire de la Terre au Soleil, du Soleil. Quand on est dans le Soleil, les planètes deviennent des stations vers la galaxie. Des stations sur la voie illuminée, ça s'appelle. Chaque planète est une station. Mais il faut faire ce voyage de la Terre au Soleil. Et pour ça, il faut vraiment s'arracher de l'attraction terrestre. Lisez Thoth et vous comprendrez l'intensité qu'il faut pour s'arracher de l'attraction terrestre. Il faut une volonté divine, ardente, incommensurable. Mais quand on attrape cette volonté divine ardente, c'est une bénédiction. Parce que c'est une puissance de feu. Et c'est comme une fusée. Une fusée, c'est terriblement puissant. Mais là, c'est pareil. Il faut cette puissance de feu. C'est Jupiter quand il s'est réveillé. Il nous permet de décoller de l'attraction terrestre qui est dans une obscurité gluante. C'est comme vaseux, la conscience collective planétaire. Pas l'être planétaire, la conscience collective planétaire qui est le brouillard de la Maya créée par le mental de l'homme. Ne vous trompez pas. C'est le mental de l'homme qui crée une pollution terrible. C'est le corps mental et émotionnel de l'homme qui crée une couche obscure sur toute la planète. Mais les maîtres, tous les véritables maîtres, sont en dehors de cette couche obscure. Tous. Parce qu'ils ont accompli le voyage vers le Soleil et du Soleil, passant par les planètes sacrées, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, passant par les planètes sacrées, ils accomplissent la maîtrise. Il faut d'abord se projeter dans le soleil. Et cette projection, c'est Jupiter. Cette envie de s'élever. Le Jupiter ou le Sagittaire ordinaire, c'est l'envie de découvrir le monde. Qui est déjà pas mal. C'est quand même l'aventure. Mais par rapport à la grande aventure du grand Jupiter, c'est encore rien du tout. Parce que le monde, c'est le monde. Tu peux aller partout dans le monde et tu verras partout la même misère. Des êtres qui s'ouvrent, qui galèrent, qui ceci. Pleine misère, partout sur la planète. Alors que ce Jupiter qui s'élève vers le ciel, lui, il va vers le soleil. Mais c'est que l'humanité normale ne sait pas qu'on peut aller vers le soleil. Comment pourrais-je aller au soleil? Alors personne n'y va. Il dit, c'est pas possible. Mais nous, les astrologues, ou certains astrologues en tout cas, le savons. On peut aller rejoindre le soleil. Ce soleil qui se trouve dans le chakra du cœur. Tout l'univers est en soi. Ne l'oubliez pas. L'homme est un cosmos. C'est la première phrase qui fait que l'astrologie existe. L'homme est un cosmos. L'homme est un système solaire. Sans cette connaissance, l'astrologie n'existerait pas. Le cosmos est en soi. Mais, bien sûr, il y a vraiment cette difficulté de sortir de l'attraction terrestre. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire grandir ce feu. Ce feu du désir ardent de s'élever dans les mondes cosmiques. Et ça démarre avec Mars et Jupiter prend la relève. Mars, lui, c'est le moteur. Jupiter, c'est la puissance d'élévation. On le comprend avec un avion que c'est Mars qui doit donner la vitesse, la bonne vitesse. Et Jupiter, lui, il ouvre les ailes et ça monte. Il faut trouver les clés en soi de ce décollage. De ce décollage de l'attraction terrestre, donc, qui permet de sortir du mental émotionnel, en vérité. Ce mental émotionnel qui pollue tous les humains de la planète. Le mental émotionnel, le Kamamanas. Vous allez partout sur la Terre, vous verrez, tout le monde vit la même chose. Voilà Jupiter, c'est cette puissance d'élévation. Cette puissance d'élévation, ça s'appelle la joie. La véritable joie. C'est pas la joie de la personnalité, c'est la joie de l'âme. La joie de l'âme. Quand l'âme est en joie, elle pleure de joie. Quelque chose de beaucoup plus délicat que le monde du plaisir et des sensations que procurent les sens physiques. Là, c'est la joie. C'est une octave supérieure au plaisir. Le plaisir, il est en bas. La joie, elle est dans le cœur. La joie se trouve dans l'élévation du cœur. Quand le cœur s'élève, il ressent la joie. C'est une bénédiction. Ça, c'est Jupiter. Et ce Jupiter, rappelez-vous, j'en ai un tout petit peu parlé hier, il est le moteur de la croix mutable. Cette croix qui va faire grandir notre Mercure. Tout est interconnecté. Notre petit Mercure au départ va grandir dans la croix mutable grâce à cette puissance que donne Jupiter. S'il n'y a pas cette puissance de Jupiter, notre Mercure, notre intelligence, notre présence reste toujours la même. Petite intelligence humaine. Petite intelligence humaine qui va grandir dans la croix. Par la puissance de Jupiter. Et du coup, qu'est-ce qui grandit dans cette croix? C'est Mercure. Mercure, Hermès, Thoth. De Mercure à Thoth. De Mercure à Thoth, parce que c'est comme s'il y a une dégradation. Thoth, c'est le seigneur de l'Atlantide. Hermès, il se rappelle de ce qu'était Thoth. Et Mercure, c'est le dieu romain qui a une mémoire de plus en plus éloignée de la réalité de Thoth. Mercure, Hermès, Thoth. Thoth, c'est la source. C'est pour ça que dans cette croix, c'est comme si on monte de Mercure, Hermès, Thoth. Et qu'est-ce qui grandit dans cette croix? C'est la présence. C'est pour ça que la présence, c'est tout. La qualité de la présence. La présence du silence. Ou si vous préférez encore, la présence du silence mental. Pour être plus précis. C'est ça qui grandit par cette croix. La présence. La présence du silence mental qui fait qu'on est en contact avec tout l'univers. Parce qu'on a, c'est comme si notre cerveau n'est plus un brouillage. Comme si c'était une radio qui faisait et c'est d'arriver à la régler sur la fréquence cosmos. C'est ça, le cercle sacré. C'est une fréquence. Résultat de l'épanouissement de cette croix mutable. Qui nous amène à cette fréquence silencieuse qui est la réalité de l'être suprême. L'être suprême est paix absolue. Cette fréquence, c'est une attention. C'est pas un acquis. C'est pas un savoir. Tous les jours, il faut retrouver la fréquence. C'est pas un savoir. C'est une fréquence. Qu'il faut trouver de plus en plus et l'installer. L'installer de plus en plus dans son existence. Il faut d'abord la trouver. Et pour la trouver, il faut ce grand voyage. Ce grand voyage que nous propose tous les maîtres. Lisez les maîtres. Ils vous proposent tous ce grand voyage vers la véritable présence. Vers la véritable présence à « Je suis cela qui est ». Qui est un des mantras fondamentaux. Je suis cela qui est. Je suis pas moi. Je suis cela qui est. Tous les maîtres, avec leur propre langage. Donc Jupiter, moteur de cette croix. Moteur de cette croix de la transformation de votre Mercure. Il fait grandir votre Mercure. Il fait grandir votre présence au présent. Jusqu'à atteindre la couronne. Et devenir un être couronné. Lumière de la conscience cosmique. trône de Mercure. Mercure exalté. Sur le site, j'expliquais, pour ceux qui l'ont vu, qui sont allés le visiter, qu'ici, on va visiter et vivre et expérimenter l'exaltation de chaque planète. Vous l'avez lu, ça ? Là, on parle de l'exaltation de Mercure grâce à la puissance de Jupiter. Parce que le but, c'est d'exalter les trois planètes, Soleil, Mercure, Vénus. C'est notre trinité individuelle. Quand elle s'exalte, c'est qu'elle s'est transcendée. Vénus exaltée, elle rencontre Neptune, la mère divine, la mère des mondes, et Mercure exalté rencontre Uranus, la conscience galactique et cosmique. Mais il faut aller jusqu'à l'exaltation des planètes, pas juste les planètes. Juste les planètes, et bien on a notre planète, Mercure, quelque part dans notre thème, Vénus, quelque part dans notre thème, c'est notre petite Vénus, notre petit Mercure. On s'en fout de ça. En astrologie initiatique, on veut l'exaltation des planètes. Il n'y a que l'astrologie initiatique qui veut ça. Les autres astrologies comprennent rien du tout à tout ça. Elle te dira, t'as Mercure, t'as Sagittaire, t'es comme ci, t'es comme ça. Ok. Moi, je m'en fous de ce que dit le thème à la base. Ce que je propose, c'est l'exaltation de chaque planète. Comprenez la différence. Le thème de naissance sert seulement à connaître notre karma. Dans ce karma, il y a des richesses et il y a des faiblesses. Je le répète. Les faiblesses, il faut s'en libérer, s'en nettoyer, s'en purifier, s'en soustraire. Les richesses, faut les accomplir. Elles sont là. Faut en profiter. C'est des dons. C'est des richesses de certaines vies passées. Il faut les récupérer. Elles sont déjà là. Inscrites dans le thème, quelque part dans le thème. Découvrez-les, entendez-les, prenez-les. Ne croyez pas que c'est intellectuel, c'est réel. Les richesses du thème sont les vraies richesses que l'on a ramenées des vies passées. Il faut les récupérer. Les faiblesses, c'est les faiblesses, ok, il faut s'en occuper, il faut nettoyer, il faut purifier. Et s'occuper de ses faiblesses, c'est sortir du bas de la pyramide pour petit à petit monter au sommet de Saturne. C'est écouter Saturne, Seigneur des karmas, rappelez-vous. Lui, il sait tous vos karmas. Donc si tu n'écoutes pas Saturne, tu ne peux pas monter là-haut. Il te dit, hop, 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 tu as des dettes, tu restes dessous. Tu es coincé. Rendez-vous compte comment chaque planète joue son rôle. Dans cette orchestration cosmique. Et si on règle toutes ces dettes karmiques, on les comprend et on les assume. Des fois, la vie, par exemple, pour certaines personnes, leur demande de leur prendre de l'argent. C'est des dettes. Alors les gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a ? On veut me prendre mon argent. Moi, je leur dis, mais regarde ton thème. Regarde cette dette-là. Combien de fois je l'ai dit, des gens ? Ah bon, quelle dette ? Alors, j'ai dit, eh ben, j'ai là. Paye ta dette. On te prend l'argent, et eh ben, c'est ta dette. Des fois, c'est l'argent. Des fois, c'est d'autres choses. Plein d'autres choses. Et au lieu de se battre pour le garder, il faut dire, ben, je paye, prends. Et là, le Seigneur des karmas, il est content. Il dit, ouh, ça y est, celui-là, il réinstaure sa balance. Et quand elle est vraiment instaurée, nous voilà en haut de Saturne, exalté, que vous avez un petit peu goûté avant-hier. Non, c'est avant-hier. Ah, c'est hier.
Les deux, avant-hier et hier. Hier.
C'était pour goûter à quand on a payé ses dettes. Chacun ses dettes. Il y en a qui n'en ont pas. La plupart en ont. C'est pas grave. C'est pas grave. Si tu comprends qu'il faut payer ce qu'il y a à payer, tu le payes. C'est payé, c'est payé. T'es allégé. Si tu te bats pour garder, c'est la catastrophe. Et c'est ce que fait tout le monde. Tout le monde se bat contre tout le monde pour garder ce qu'il a. Et donc, se purifie pas des dettes qui doivent se purifier. Il faut s'alléger. Qu'est-ce qu'on s'en fout de rien avoir? Puisque la vérité, c'est l'être. L'être n'a rien. Il vient sans rien et il repart sans rien. C'est l'être. C'est pour ça que toutes les acquisitions, c'est du poids, c'est des boulets. Sachez-le. C'est ce qui nous retient à la terre. Moi, j'ai rencontré des milliardaires. Ils sont plombés 1000 fois plus que les gens normaux. Parce que préoccupés par tout ce qu'ils ont sur la terre. Ils ont des trucs partout. Des maisons partout. Des immeubles partout. On a connu. Pas un instant, la tête s'arrête par préoccupation de qu'est-ce qui peut se passer à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Tel endroit. De la folie. Milliardaires. Ils ont des milliards. Et ils ont peur de perdre quelques centimes. Une folie, mais grave. On l'a vécu, nous. On en a croisé. Ah, c'est pas mal. Faut le voir pour le croire. Bienheureux les simples d'esprit, ils posséderont la terre. Ceux qui n'ont rien à penser, qui n'ont rien à se préoccuper. Tu voulais dire quelque chose?
Je crois que bienheureux les simples d'esprit, ils verront Dieu.
C'est une autre façon, moi. Oui, il y a plusieurs versions.
Bienheureux les pauvres, ils posséderont la terre.
Le pauvre, il n'a rien à se préoccuper, il n'a rien. Et ça aussi, on en a connu. Et je peux vous dire qu'ils sont heureux. En Inde. Tout le monde dit l'Inde, c'est la misère. Et nous, on a vu des milliers et des milliers d'Indiens sans rien, super tranquillos. Ceux qui sont allés le savent. Qui est allé en Inde? 1, 2, 3, 4. 5, un petit peu. Voilà. Si on reste en Inde, on voit des êtres qui n'ont rien, qui sont super bien. Ils ont leur petit chai, tout va bien. Deux roupies.
Et 10 ans.
Oui, oui. C'est 4 ou 6.
5.
Allez, 3 ans. Un euro, c'est quand même 80 roupies. 60, 80. Donc, un chai, 2, 4, 6 roupies. C'est 4, 6 pour les touristes, mais pour les Indiens, ça peut rester à 2. Sache-le. Bon. C'est même gratuit. pouvons, voilà, se défaire des dettes karmiques. C'est nécessaire. Sinon, on reste à terre. Accroché. Et c'est pour ça que dans la montée de Jupiter, s'il y a des dettes, il nous les montre. Ah oui, tu veux monter, ok, mais alors qu'est-ce que tu fais avec ces dettes? Tu peux pas monter avec des boulets. Il faut couper. Tous ces boulets, c'est des acquisitions ou des attachements à certaines personnes. C'est l'un ou l'autre. Deux choses seulement. Des acquisitions matérielles ou des attachements avec des personnes. Sachez-le. Deux sortes de dettes, c'est tout. Attachement émotionnel vital avec certains êtres, attachement à des biens matériels qui viennent souvent des héritages et tout ça.
Est-ce que ça veut dire qu'à être propriétaire, c'est pas forcément...
C'est pas forcément le mieux. Non. Pour la vie spirituelle, non.
D'un karma d'attachement, par exemple.
Comment ?
C'est quoi se libérer d'un karma d'attachement ? Est-ce que c'est en prendre conscience ?
Il faut prendre conscience avec qui on a des attaches. C'est très net. Quelqu'un que tu peux pas t'arrêter d'être en contact, c'est qu'il y a des attachements. Eh bien, c'est de s'en libérer. Hein. C'est lâcher.
On peut être avec quelqu'un et pas avoir cet attachement-là.
Ah ben oui, quand même.
On n'a pas besoin de s'éloigner, c'est pas une question.
Ah ben sinon ça voudrait dire qu'il faut être seul pour être détaché. Non, on peut être avec des êtres, mais il faut être dans une relation libre. Comme le couple divin s'appuie sur deux lois. L'engagement dans la liberté. Il y a un engagement, tu es avec quelqu'un, tu es engagé. Mais tu es libre. Et l'autre est libre. Ça, c'est le couple divin. C'est le couple non karmique. Mais je vous l'ai expliqué. Il y a le couple non karmique quand on a atteint Vénus exaltée. Si on a une petite Vénus, pas de couple divin, bien sûr. Si on a une petite Vénus qui prend l'autre, au lieu de donner, nécessairement, ça ne marche pas. Vénus, elle donne. Tous les jours, il faut se donner, 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 donner. Donc chaque planète est un enseignement à lui-même, en lui-même, est une connaissance incommensurable qu'il faut réaliser. Soleil, Vénus, Mercure, exalté. Et on devient une trinité exaltée, libérée. Une individualité transcendée. Donc, un être cosmique, supracosmique ou galactique. C'est comme ça. Donc, rappelez-vous, Jupiter est le moteur de cette croix mutable. Croix mutable qui fait grandir notre intelligence jusqu'à acquérir la couronne de l'intelligence. C'est une couronne de lumière que personne ne voit, bien sûr. Fruit de l'épanouissement de cette croix. Jupiter, c'est le moteur, c'est l'élévateur. Chaque fois que je fais un thème à quelqu'un, je lui donne une dose de Jupiter. Sachez-le. Parce que les gens en ont vraiment besoin. Ils sont en manque de Jupiter, terrible. Terrible, terrible, terrible. Un manque de vision. Rappelez-vous, Jupiter nous donne la vision. Les gens ne voient rien. Le troisième œil est bloqué. Fermé. Aucune idée de la véritable mission de vie. Troisième œil, fermé. Chaque fois que je fais un thème à quelqu'un, j'ouvre un petit peu ce troisième œil. Mais il a du mal. Ça coince. Comme si les gens, ils ont peur de voir. Peur de voir les karmas et peur de voir les responsabilités qu'ils vont avoir à offrir à l'humanité. C'est plus facile de rester tranquille et ignorant à faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire rien du tout. Quand on voit, on doit faire après ce qu'on a à faire. Il y a une mission, je vous l'ai dit, il y a une mission qui est inscrite, qui a été décidée par les mondes supérieurs. Rappelez-vous, Uranus décide des missions de vie de chaque âme. Uranus, la fleur aux mille pétales, qui envoie chaque pétale. Vous vous rappelez de ça tous ? La fleur aux mille pétales, les pétales à l'extérieur, les pétales à l'intérieur, et celles qui arrivent au centre. Tout le monde se rappelle de ça ? Celles qui sont au centre, elles sont envoyées en incarnation et Uranus il dit maintenant, petite pétale, vous allez faire ceci et cela. Et elle rentre en incarnation. Et le thème, c'est le résultat de cette décision prise au centre de la fleur par Uranus. Vous vous rappelez de ça? Donc chaque thème détient la clé que le maître a donné pour cette âme, pour cette incarnation. Faut-il décrypter son thème? Il se décrypte dans le temps parce qu'il se déroule. Jupiter, c'est cette puissance d'élévation. Pourrait me dire quelle pourrait être sa mission de vie. rentre bien en vous, dans votre cœur, dans votre conscience, dans votre cœur. Quelques instants. Quelle est la mission de vie que votre cœur aimerait réaliser, que votre âme aimerait accomplir? C'est inscrit au fin fond de votre cœur. Essayez de rentrer en contact avec ce lieu où se trouve cette mission, où se trouve inscrite cette mission. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Qui a une petite idée de qu'est-ce que pourrait être cette mission?
Me placer au fond de la pyramide, en haut de la pyramide, et amener à voir la pyramide aux autres et à proposer la pyramide.
C'est pas mal. Faut-il atteindre le sommet de la pyramide? Mais ça peut être un but intéressant. Pourquoi pas? Qui est-ce qui aurait une autre idée? Ouais.
J'ai le cœur qui bat à lire. C'est rassembler les âmes groupes et partager, transmettre l'évolution par ma propre expérience et ma continuité.
Voilà. De rassembler des âmes groupes.
Rassembler. Je vois, ce que je vois, c'est un rassemblement, une transmission, un partage qui devient créatif en fait. C'est une création.
Rassembler des âmes en groupe pour vivre des créations.
Non.
Non.
Je me vois partager et transmettre.
Partager et transmettre. D'accord.
Monter à la source de moi et rejoindre le tout.
La réalisation.
Ça a quelque chose à voir avec des paroles de paix, travailler pour
apporter des paroles, des faits. Il y a quelque chose qui passe par la parole et l'ouverture à des groupes avec en focus. Encore faut-il que je la trouve d'abord.
C'est ça.
Mais voilà. Mais une fois trouvée, ce serait.
Donc trouver la paix en toi et la partager au monde. Dans des groupes.
Et la paix versus conflit. Hein. Cette paix, pas forcément une notion de paix intérieure, mais la paix de l'humanité.
Ah, donc vouloir la paix dans le monde. Ouais. Participer voilà. À amener la voilà. Paix dans le monde.
Voilà.
D'accord. C'est le but de l'œil, tu sais, justement. Hein. Donc tu es en accord avec le but de l'œil, alors. L'œil, c'est pour la paix dans le monde. Le projet, il s'appelle Dynamique de la paix. Si tu ne le savais pas. Je te le dis. Donc, tu rentres dans cette optique d'amener la paix dans le monde. Merci. Qui c'est qui a encore une petite vision de ce que pourrait être sa mission de vie fondamentale.
Être un instrument de la guérison de l'autre. Un instrument parce qu'on voilà, on n'est pas seul à être là pour aider l'autre dans une démarche thérapeutique. Guider l'autre et ouvrir la conscience de l'autre à lui-même et au tout.
D'accord. Guérison, guidance.
C'est assez mystérieux, c'est s'unir à Neptune en soi.
S'unir au tout. Donc ça rejoint un peu celle de pareil. S'unir au tout. Ça c'est bien. Mais est-ce que tu connais les pas qu'il y a à faire pour s'en approcher?
Il y a moins d'urgence pour elle.
Comment?
Il y a moins d'urgence pour elle.
Peut-être. Comment ?
Je vois pas encore.
Trop comment ?
J'ai une idée. Trouver la parole juste, créer l'impulsion chez l'autre par l'amour et la compassion. Et je vois très bien ce que je dois faire, mais je suis pas du tout. C'est d'abord le mariage de la lune et du soleil. Et surtout rester avec le silence.
Ah. Donc du coup, ce qu'on a travaillé ici, tu sens que c'est très important pour accomplir ce que tu aimerais faire. D'accord.
Parce que cette notion de parler à partir du silence, ça fait 2-3 ans que je l'ai entendu et ça m'inspire énormément.
Ah.
Mais il y a du chemin.
Eh oui, il faut faire grandir sa croix mutable. Ce mercure qui doit grandir, 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 c'est la parole sacrée. Alors, une des clés qu'il faut connaître pour cette parole sacrée, c'est de connaître l'innocuité. Est-ce que tu connais ce mot, l'innocuité? Ça, c'est très, très important pour la parole sacrée. L'innocuité, c'est de ne faire de mal à personne, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Jamais. Jamais, jamais, jamais. La parole sacrée ne peut pas exister s'il n'y a pas l'innocuité. Parfaite. qui est une des clés. Parfaite et totale, ni en pensée, ni en parole, ni en action, ça purifie le chakra de la gorge. C'est l'innocuité. C'est à méditer. Ni en pensée, ni en parole, ni en action. Jamais. Il faut être très, 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 très vigilant à ne faire de mal, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Alors, la parole, un jour, devient sacrée. Parce qu'il y a l'innocuité. Et on trouve, le chakra devient limpide comme de l'eau de source. Résultat de l'innocuité. Long voyage vers la bienveillance et la compassion.
C'est le premier accord, Tolkien, que ta parole soit impeccable.
Ouais. Exactement. Est-ce que la parole est créée ou est détruite? Deviennent créatrices. Parce qu'on dit qu'elle a deux tranchants, c'est une épée, la parole. Une qui tue, une qui crée. Celle qui tue, elle engendre des karmas. Celle qui crée, elle purifie les karmas. Qui encore a une idée de...
Déjà d'atteindre ma propre réalité pour pouvoir guider les autres. Je pense que ça passera par la communication, c'est ce que je sens en tout cas. Voilà, d'être dans cet amour inconditionnel, cette compassion, pour trouver les mots justes.
D'accord. Donc envie de la réalisation aussi. Pour la partager ensuite. Et est-ce que tu es consciente de ce qu'implique cette réalisation?
Je commence à voir le chemin.
Comment?
Je commence à voir le chemin.
Ouais. D'accord. Il reste Alain. Alain, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que pourrait être cette mission divine?
Si tu fais une mission divine, ce serait de rayonner, c'est-à-dire faire un travail, déjà un énorme travail sur soi pour pouvoir arriver à un certain niveau, et après vivre simplement, mais au contact d'autres, mais les autres avec avec ce qu'on pourrait dégager si on arriverait à cette réalisation, se ferait naturellement et amener de plus en plus de gens à aussi se poser des questions, à s'ouvrir et à avancer. Et à ce sujet-là, j'ai fait quelques... Alors ça revient souvent, j'ai fait quelques séances de visualisation et... J'ai toujours ce même endroit où on visualise une maison de la montagne à forte vibration. Donc c'est une maison, on la voit très bien, exactement comme elle est. Bon, ce lieu, c'est un lieu, alors c'est peut-être symbolique, mais c'est un lieu où on se retrouve entre personnes, disons, on va dire, entre êtres partageant les mêmes aspirations, ça va être simple. Et c'est un lieu où il y a de la liberté, mais il y a un fort échange, et ce qui nous permet de nous ressourcer pour repartir. Il y a toujours cette maison, il y a ce retour. Je vois très bien la maison où elle est, il y a de l'eau, il y a la montagne, il y a des arbres, il y a du soleil, je sais comment elle est située. Et c'est aussi un objectif de réaliser ça. Alors après, que ce soit de l'acquisition ou de la location, à la limite, ce n'est pas important le côté matériel, on pourrait dire. C'est l'endroit où on puisse se réunir pour repartir. Et ça, je l'ai toujours en tête. Et voilà. Je sais pas, ça reste extrêmement. Mais...
Ok. Donc la vision comme ça d'une maison qui serait un lieu de rassemblement
d'élévation. D'élévation.
D'élévation.
Oui, voilà.
Merci. Toi, Jimmy.
Je suis toujours un peu dans le même cheminement, et là, bon, je le sens peut-être davantage, parce que ça s'approfondit un peu, là. C'est de faire découvrir aux enfants donc la présence à soi par une pratique de yoga, par une pratique. Là.
De transmettre le yoga aux enfants.
Le transmettre, et avec cette conscience, cette présence à soi qu'on pratique ensemble là, mais que je retrouvais ce matin aussi en pratiquant un Surya Namaskara face au soleil, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment rentrer en soi, quoi, en pratiquant.
D'accord. Et le transmettre aux enfants.
Et le transmettre, vivre avec des enfants de 7-14 ans, quoi.
Ah, les petits.
Ouais, parce que il me semble que c'est un moment très important déjà pour être en communauté avec les autres et découvrir plein de choses, quoi.
D'accord. Pierre, un petit mot.
Moi, ce serait de trouver le silence intérieur, sortir un peu du cocon, et puis après de partager à travers peut-être plus la création, choses comme ça.
C'est ce qui te vient.
Oui. C'est pas encore clair, mais bon.
Trouver le silence intérieur, puis.
Puis le partager.
Partager.
Le partager à travers. Plus à travers quelque chose de matériel. Donc création.
T'es dans la création déjà ou... Ah.
Non, je dis ça parce que je suis dedans, mais peut-être que ça sera complètement autre chose, je sais pas.
Ce qui te vient là.
Oui.
Je me fous un peu de ce que je veux dire.
Je ne t'aime pas.
Je me suis rappelé dans une régime.
Ah.
Ce serait de pouvoir apaiser les enfants et leur permettre de s'éveiller dès leur plus jeune âge, de trouver cet état de paix et de silence. Et voilà, ça pour moi, ce sera avec les voisins.
Ah ouais, toi aussi tu sens ça. Qu'est-ce que tu dirais?
Moi, je sens que ma mission fondamentale passe par Mars. Mars étant le moteur, la flèche, et Neptune étant le but. Et je sens à l'intérieur de mon être que ça fait comme un cerf-volant qui va de Mars à Neptune, donc cet incommensurable amour, mais Mars est vraiment fondamental, c'est comme le moteur, c'est comme la flamme. Et tout à l'heure je sentais que c'était comme une montée de Kundalini en fait, jusqu'au sommet de l'être. C'est comme de réaliser cet envol à l'intérieur de soi. Des énergies les plus denses vers les plus subtiles, du corps vers l'esprit, de l'esprit vers le corps. De marier les deux en fait. Mais vraiment le but étant de se fondre dans cet incommensurable amour et de le vivre. De l'offrir au monde, de le vivre. Et de le vivre en couple bien sûr. Et pour la mission de l'œil.
D'accord. Alors que toutes ces belles missions s'accomplissent pour chacun de vous. Mettez là au bout de votre arc.
Je l'attendais.
Et n'oubliez jamais. Que ce but soit perpétuellement conscient. Alors vous verrez que la vitesse qui vous amènera au but sera terriblement augmentée. Gardez le but. En conscience quotidienne. Et accomplissez-le dans les mois ou les années à venir. Alors la flèche du Sagittaire deviendra vivante. Votre croix mutable s'accélérera. Votre intelligence et votre présence grandira. Votre mercure montera vers Thoth. Qu'on ressent la joie quand on a un but et que la distance entre soi et le but diminue tous les jours. Alors la joie, elle augmente. Elle monte, elle monte, elle monte, elle grandit. Chaque jour faire un pas vers ce but. Et Jupiter grandit. Et la joie de l'âme grandit. Jupiter, c'est la joie de l'âme. Et cette joie de l'âme engendre la santé véritable. Notre bien-être global dépend de la puissance de notre Jupiter. À quel point ce feu divin brûle en nous. Une grande puissance de volonté divine. N'a rien à voir avec la volonté personnelle ou individuelle. La volonté personnelle vient du deuxième chakra et la volonté individuelle du troisième. Celle de l'âme elle part du cœur et elle monte au troisième œil. Pas se tromper. Dans le cœur, il y a le silence. Dans le deuxième et troisième chakra, il y a une intense agitation. Tant que la conscience n'est pas centrée dans le cœur. tant que la conscience n'est pas centrée dans le Sacré-Cœur. Reste un peu de temps, je ne sais pas quelle heure il est du tout, que je me rende compte. Ok. Il reste un quart d'heure. Alors je vais parler un peu plus de l'initiation. Qu'est-ce que l'initiation ? L'initiation, c'est la plongée dans la croix fixe. L'initiation. L'initiation, c'est la transmutation de l'âme en âme cosmique. La transmutation de l'âme individuelle en âme cosmique et transcendantale ou galactique. Donc l'initiation, c'est plonger dans ce feu de la transformation. L'initiation a son archétype dans la croix fixe. Celle qui permet la transmutation du soleil, soleil en tant qu'ego. Le soleil, c'est quand même l'ego. C'est l'ego solaire. L'ange solaire, on l'appelle. L'ego solaire. Mais c'est quand même encore de l'ego. Parce que pour les êtres ordinaires, l'ego, c'est le moi. Ça aussi, il faut que vous ayez bien conscience. Pour un être ordinaire, l'ego, c'est le moi. Pour un disciple, l'ego, c'est le soleil. Ça, personne n'en parle, personne ne le sait. Pour un être ordinaire, pour un être humain ordinaire, l'ego, c'est le moi. Pour un être spirituel, l'ego, c'est le soleil. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Et du coup, quand on est rentré dans la vie spirituelle, le soleil, s'il ne rentre pas dans le processus de transformation, de transmutation de la croix fixe, très vite se crée un ego spirituel. Et le piège, il est gros comme une patate. Et c'est pour ça que l'initiation est le lieu de la mort de l'ego. Et même de l'ego spirituel. Donc la mort du soleil dans le scorpion pour renaître dans le verseau. Donc il faut vraiment se rappeler de ça. L'initiation, c'est l'âme qui s'offre à la transmutation pour sortir de la conscience égoïque et rentrer dans la conscience galactique. La conscience galactique, c'est être un avec les autres. Il n'y a pas moi et les autres. Moi au-dessus des autres. C'est moi avec les autres. je forme une unité d'amour et de compassion. La conscience galactique. Attention à la conscience spirituelle qui devient égo-spirituelle. Attention, justement, pour Dorian, au sommet de la pyramide, que si on reste coincé au sommet et qu'on ne va pas de l'autre côté, là, l'ego spirituel se met en place.
J'ai vu l'œil aussi, quand même. C'est l'œil que j'ai vu aussi.
Oh, je te l'ai dit. Et là, il ne faut pas rester coincé. Là est un tournant de la loge blanche et de la loge noire. Et pour un qui rentre dans la loge noire, des milliers tombent. Pour un qui rentre dans la loge blanche, des milliers tombent dans la loge noire.
À ce sommet.
En se retrouvant à ce sommet. Attention au danger. Les maîtres noirs attendent les initiés pour les récupérer au sommet de la pyramide. Les maîtres noirs ne sont pas sur Terre. Ils sont dans l'occulte, ils sont dans l'astral. C'est des maîtres serpents. Ils sont décrits dans les tablettes d'émeraude de Thoth. Il y en a une quantité folle sur la Terre. Les maîtres blancs, il n'y en a que quelques-uns à côté. Donc, il faut être très conscient de la mort de l'ego à travers le scorpion, pour renaître dans la conscience galactique. La conscience galactique est la transcendance de l'ego. La véritable initiation, la grande initiation, elle se situe dans cette transmutation. Dans les premières initiations, 1, 2, 3, il y a encore tous les maîtres noirs. À partir de la quatrième initiation, fin des maîtres noirs. Parce que la quatrième initiation, c'est la libération. L'explosion de l'ego, ou l'implosion, ou l'explosion de l'ego, l'ego disparaît. Libération de l'ego. Personnel, de l'ego individuel. Dans la conscience galactique. La conscience galactique, ça veut dire que l'autre, c'est moi.
De quelle initiation tu parles? Tu dis la quatrième initiation.
Ouais, quatrième grande initiation.
La crucifixion.
Qui représente la crucifixion. Cette crucifixion du Christ, c'est la quatrième grande initiation qui est la grande libération. Symbole de la grande libération. Ça veut dire qu'arrive un jour où l'ego explose complètement et définitivement et éternellement. Et là, l'initié rentre dans la loge blanche. Grande loge blanche de Sirius. Avant, les petits initiés, 1, 2 et 3 initiations, il y a le piège de toutes les loges noires planétaires. Celles qui amènent les êtres à prendre du pouvoir sur la planète. Et plus de pouvoir, et plus d'argent, et plus de plein de choses. Comment? Oui, un peu, c'est un des trucs qu'on entend parler, mais ça c'est juste un point. Mais la focalisation, elle est trop sur les Illuminati, pendant qu'il y en a plein d'autres qui s'amusent. Loge noire, c'est la loge de pouvoir. Comment ?
C'est un égrégore ?
C'est des loges, non ? C'est des loges. C'est vraiment des loges. Des loges tenues par des maîtres noirs. Ces maîtres noirs sont décrits dans les tablettes d'émeraude. On ne peut plus précisément. Il faut lire les tablettes d'émeraude. Ces loges noires, ces maîtres noirs, existent depuis des millions d'années. Et la bataille entre les loges noires et blanches, elle existe depuis la nuit des temps. Et continue à exister. Et le problème, c'est les gens qui rentrent dans le monde initiatique et qui tombent sous le piège des maîtres noirs, qui vont leur donner des pouvoirs. Les maîtres noirs donnent des pouvoirs. Le maître blanc les enlève. Sachez-le. Tant qu'on veut des pouvoirs, c'est l'ego spirituel qui les veut. Et plus on a de pouvoir, plus on s'éloigne de la vraie réalisation. Les Siddhi, ça s'appelle, en Inde, sont les plus grosses entraves à la réalisation. Les Siddhi. Les pouvoirs psychiques et spirituels sont les plus grosses entraves à la réalisation. Entendez-le bien. Et le nombre d'initiés, de gourous, de guides, qui veulent donner des pouvoirs aux gens, il y en a une multitude sur la planète. C'est le piège de la vie spirituelle. Donc attention au mot pouvoir. Pas le pouvoir qu'il faut vouloir, c'est l'épanouissement de la présence et de l'amour. Ne nous trompons pas. L'ego humain, c'est le moi. L'ego spirituel, c'est le soleil. Donc, ce soleil doit se transmuter dans le scorpion pour devenir une conscience collective et cosmique. Donc, devenir un frère. Dans le Verseau, on devient un frère, on devient un ami. Maitreya, le mot Maitreya, ça veut dire celui qui est votre ami. Maitreya, c'est le maître des maîtres. et il est celui qui est votre ami. Donc c'est un pur verso. Par cette croix fixe, on va du soleil à Uranus. Uranus est la conscience galactique, la conscience fraternelle.
Les maîtres qui retiennent les disciples sont situés à leur groupe entre la loge blanche et la loge noire.
Eh bien, ça s'appelle des maîtres du 3. Ça s'appelle les maîtres du 3, du nombre 3. Il est celui qui détient le pouvoir. Toute clé de magie détient les âmes dans l'obscurité.
Donc, même à travers une lumière apparente.
Il détient la clé de tout pouvoir. C'est le maître de 3.
Et qui enferme les dames
dans l'obscurité.
Dans l'obscurité.
Pour le bénéfice.
Mais pour le bénéfice des enfants des hommes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de ces maîtres-là.
Tu disais pour le bénéfice
des enfants des hommes. C'est-à-dire que ces maîtres noirs, ils ont leur utilité. Pour enchaîner les hommes à ces maîtres noirs, parce que c'est des âmes égarées. Alors les maîtres noirs, ils les tiennent. Ils ont besoin d'être tenus. C'est les âmes perdues. Elles ont besoin de ces maîtres du 3.
En quoi elles ont besoin ?
Parce qu'elles sont égarées.
Elles sont perdues.
Elles sont perdues. Ça s'appelle les âmes perdues.
Jusqu'au jour où elles
vont
s'envoyer, elles comprennent
que. Ah ben oui. Jusqu'au jour où elles comprennent qu'il faut s'en libérer. Parce qu'elles se sentent trop enfermées. Enfermées dans le gourou noir. C'est le maître du 3. Tout est expliqué dans l'étape d'émeraude de Thoth. Il détient la clé de tout pouvoir. C'est le plus petit maître, c'est le maître. Le maître blanc, il perd tous les pouvoirs. Il devient flamme de vie.
Il libère les âmes des hommes.
Et il libère les âmes des hommes. Et le maître du 5, il est le véritable maître, maître de la parole, qui retentit sur toute la planète. Ça, c'est le maître du 5. Il y a 7 sortes de maîtres qui sont toutes décrites dans les tablettes des morts. Et c'est d'une subtilité incommensurable. En tout cas, le maître du 3, il tient les âmes dans l'obscurité. Et alors là, des maîtres du 3, il y en a une ribambelle sur la planète. Mais ça fait partie du plan. Il récupère les âmes égarées. Il les maintient dans l'obscurité. Comment ?
Comme il y en a plein aussi, il en faut plein.
Ben oui. C'est ça. C'est ça. Les maîtres qui ont plein de disciples, la plupart du temps, sont des maîtres noirs. Qui qui tiennent les âmes dans l'obscurité, les tiennent. Le disciple ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. Mais ça s'appelle les maîtres du poisson. Les maîtres du Verseau commencent à partir du 4. Les maîtres du Verseau, ils libèrent les âmes de leur karma, ils les libèrent pour les amener vraiment à l'état d'éveil et non pas à l'état de dépendance du maître. Le disciple classique de l'ère du poisson, il est dépendant de son maître. Il ne prendra jamais une décision importante sans que le maître lui ait dit ce qu'il fallait faire. Jamais. Ça, c'est le disciple sous ce maître du 3. Tout ça, il faut l'apprendre sur le chemin spirituel. Le comprendre, le voir, percevoir et y voir clair. Donc il faut se rappeler que le but n'est pas le pouvoir, mais l'amour. Oui. Mais il y en a tellement qui parlent de pouvoir maintenant. Que c'est facile de se tromper. Enfin voilà, l'initiation, c'est la mort de l'ego. C'est la mort du soleil. La mort de plus en plus totale de cet ego. Chaque initiation, le soleil meurt un peu plus pour s'abandonner à la collectivité des âmes. Voilà le vrai processus initiatique. C'est l'âme qui s'approche de plus en plus de la libération. Son objectif sur la croix fixe, c'est la libération. Et la libération est l'antithèse du pouvoir. Comment ?
L'image du Christ
qui est crucifié. Ah oui, ah oui. Ah, ah, ah. L'image du Christ qui est crucifié, c'est l'image de la mort de l'ego spirituel et de la libération, de la grande libération.
Tu sais la différence entre Jésus et le Christ ?
Justement, c'est que Jésus, c'est Jésus, c'est celui qui s'est incarné. Le Christ, c'est celui qui est apparu en lui pour
lors de la crucifixion
et lors de la transfiguration. Mmh. Et donc, il y a une union entre les deux, ce qui a fait Jésus-Christ. Mmh. Mais c'est deux entités différentes.
C'est l'homme accompli qui devient en fait l'être spirituel qui est.
Ouais. Ouais. Mais dans l'histoire de Jésus-Christ, c'est vraiment deux âmes différentes qui se rencontrent. Et c'est donc Jésus qui s'abandonne et qui est adombré par l'âme du Christ. Et il devient Jésus-Christ. Il a été christifié, ça s'appelle.
Jésus est plus au niveau de la croix cardinale.
Non, 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 pas spécialement, non. Non, non, non.
Est-ce qu'il y a un lien entre la quatrième initiation et l'exaltation de Saturne ?
Ah oui. Ouais. Il faut dépasser Saturne pour sortir de
la troisième.
Ça, c'est même à la troisième.
L'exaltation de Saturne. C'est la transfiguration.
L'exaltation, c'est la troisième initiation.
L'exaltation de Saturne.
Oui.
L'exaltation de Saturne, ça s'appelle la transfiguration. Et à la véritable transfiguration, l'être est transfiguré. C'est-à-dire que ta lumière devient un avec la lumière cosmique. Dès la troisième initiation.
Ça, c'est le niveau, c'est l'état dans lequel on est quand on est sur la pyramide.
Oui, l'état que l'on est dans la pyramide là qu'on a vécu là, c'est un petit goût de la réalité. Oui, c'est pas la transfiguration. Oui, ne nous trompons pas. C'est la transfiguration, ça s'appelle. Donc c'est quand Jésus est monté sur la montagne et qu'il a vécu la transfiguration. Et la transfiguration, c'est un truc énorme. C'est un truc énorme où ton individualité est brûlée à la face de Dieu.
Le corps mental.
Le corps mental est absorbé dans la conscience cosmique et christique. C'est la troisième initiation. Troisième grande initiation. Parce qu'avant les initiations, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, il y a 9 initiations mineures pour arriver à la grande première initiation. Oui. Voilà. Ouais. Et ces initiations mineures, justement, sachez-le, c'est d'aller de la lune au soleil. Et les initiations majeures, c'est du soleil qui grandit et qui explose et qui devient une multitude de soleils. Et quand il devient une multitude de soleils, il n'y a plus d'âme. Il y a l'âme groupe, il y a la constellation des âmes, et c'est là que on parle de maître ascensionné. Voilà. Mais avant les grandes initiations, il y a les petites initiations, de la lune au soleil, donc il ne faut pas se tromper. Mais y a du travail dans la première partie et des fois il y a la deuxième partie qui s'enclenche. Donc c'est complexe. Ça c'est l'interaction entre les différentes croix. C'est très subtil. Et voilà, Jupiter donne le but. Jupiter donne le but, donne la vision, donne le but, et cette vision devient de plus en plus claire. Et quand la vision est très claire, ça va après très vite. Donc il faut clarifier son but. Et le vivre. Alors là, après, on sait et on se sait sur le chemin de l'âme, sur l'accomplissement de l'âme, et on se sait rentrer vraiment dans le grand chemin spirituel. Avant, on est emporté par la vie humaine normale, trimballé par la conscience de masse, la conscience de la lune. s'arrêter là pour Jupiter.